Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Vous vous apprêtez à écouter l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel présenté par Patrick et Alain, en partenariat avec l'Observatoire astronomique d'Anyan. Patrick, bonjour.
Bonjour.
Je vois que tu ne portes plus de casque. T'avais peur que le ciel te tombe sur la tête?
Alors oui, en ce moment, il fallait faire un peu attention parce qu'il y a un gros machin là qui a failli nous tomber dessus.
Oui, effectivement, c'était...
Une demi-tonne, hein, je crois.
C'est ça, c'était le satellite Cosmos 482 qui est retombé dans l'atmosphère.
Est-ce que ça veut dire qu'il y en avait 481 autres avant ou pas?
Oui, alors ben on va y venir, c'est une très bonne question ça. Donc Cosmos 482 a été lancé le 31 mars 1972 et ça a été un échec au lancement. En fait, ce qui s'est passé, hein, c'est qu'il y a eu l'explosion du dernier étage du lanceur et donc c'était lors de l'injection de la sonde Venera 9 pour son orbite de transfert vers Vénus. Et le terme Cosmos, il a été adopté par les soviétiques en 1962 et qui désigne en fait tous les satellites soviétiques, hein, donc de Roscosmos hein, actuellement, hein, mais ou de l'équivalent CCCP hein, qui a été assez connu aussi à l'époque, et dont on a perdu le contrôle. Alors 482, bah oui, c'était le 482e.
Moi je disais ça pour rire, mais en fait c'est vrai.
Oui, et bah, en fait on peut aller jusqu'à 2558.
D'accord, ok. Bon, mais tu vois, c'était pas pour rien. Du coup,
voilà, donc en fait ça désigne hein, surtout maintenant, aujourd'hui, en tout cas, des satellites soviétiques ou russes hein, plus généralement. Qui sont hors de contrôle, dont on n'a pas le contrôle sur son fonctionnement, sa trajectoire, etc.
Donc ils vont retomber forcément un jour ou l'autre sur Terre, ou ils peuvent être éjectés, ou rester...
ou rester en orbite,
ouais.
Voilà. Bon, ça, c'est des questions, on pourra en reparler ensuite.
Oui.
Donc oui, effectivement, Roscosmos, du moins le satellite Cosmos 482, pardon, eh bien, il faisait effectivement une demi-tonne, hein, c'est les restes de ce qui devait normalement aller sur Vénus.
Oui.
Voilà, et pourquoi il posait beaucoup de problèmes? Eh bien, peut-être que déjà tu pourrais nous parler de Vénus aussi, tiens, d'ailleurs,
oui, alors,
dans un premier temps.
Vénus, oui, on peut parler de Vénus. Alors, c'est l'astre le plus brillant dans le ciel, après le Soleil et la Lune, évidemment. Alors, il est très brillant parce que son atmosphère est très dense, et du coup, ben, Vénus reflète énormément la lumière du Soleil. Alors, on l'appelle l'étoile du berger à tort, hein, on en avait peut-être déjà parlé ici, parce que ben, on sait très bien que c'est pas une étoile, mais une planète, et c'est à cause de cette brillance qu'on la confond. Alors, en fait, son atmosphère est très dense, et du coup, la température à la surface de Vénus est très chaude, hein, on est à plus de 400 degrés, 470 degrés, je crois.
C'est ça, à peu près.
Donc, pour aller la visiter et espérer atteindre le sol, je pense qu'il fallait construire un satellite, enfin une sonde extrêmement résistante à la chaleur.
Oui, alors déjà, bien, effectivement, les Soviétiques, hein, au début de l'ère spatiale, s'étaient posé beaucoup de questions sur Vénus et ont mis en place le programme Venera, donc pour aller explorer la planète Vénus. Alors, le programme a débuté en 1961. Et il est aussi connu pour ses nombreux échecs. Hein. Ça, on ne peut pas dire que ça a été le...
Oui,
le...
après c'était un peu tout le monde hein, dans les années 60.
Oui, mais le programme Venera est quand même assez connu pour ça.
Oui.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Venera 5 a été la première sonde équipée d'un atterrisseur et qui devait, du moins c'était la première tentative d'atterrissage sur Vénus. En fait, la sonde a été écrasée hein, par la pression atmosphérique, hein, c'est 100 fois, 100 fois l'atmosphère terrestre.
Oui, alors j'avais noté un truc pour que les auditeurs se rendent compte, hein, c'est en gros, quand on est sur Vénus, ben on aurait la sensation d'être en gros à 900 mètres sous l'eau, au
oui,
niveau de la
ça.
Pression.
Oui, c'est ça. Ouais.
Donc je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais ça tasse un peu quand même.
Voilà, et donc du coup, bien, cette sonde n'a pas résisté à la chaleur. Donc il y a eu Venera 6 qui a été une autre tentative. Elle a réussi à descendre plus bas, mais pareil, elle a été complètement écrasée par la pression à 11 km d'altitude. Mmh. Et Vénéra 7 a été la première sonde à se poser sur Vénus. C'était le 10 août 1970. Elle a quand même réussi à survivre pendant 23 minutes.
Et c'est là qu'on a eu cette fameuse photo du sol de Vénus.
Voilà, tout à fait.
Voilà, où on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de verdure.
Voilà, ça a été la première. Effectivement, vu les conditions sur Vénus, les Soviétiques ont forcément dû mettre au point un atterrisseur qui résiste déjà à la très forte pression, associé à ça la chaleur. Donc c'était par définition une sonde ultra résistante, d'où le fait qu'elle pouvait résister largement à la rentrée atmosphérique sur Terre.
Hein. Alors c'est ce qui s'est passé du coup, elle a résisté, parce que du coup apparemment elle est tombée dans l'océan.
Oui.
Donc on ne peut rien récupérer.
Alors, sauf si effectivement ils jugent utile que ce soit récupéré pour, par exemple, justement analyser
étudier.
Comment...
Alors tout dépend de la profondeur, hein, parce qu'on sait à peu près que c'est tombé au large de l'Indonésie, hein, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, oui.
Mais à quelle profondeur ?
Alors là, je ne sais pas. Mais bon, après, peut-être aussi que simplement des missions privées ou même peut-être même la NASA. Alors vu les budgets qu'on lui attribue actuellement, peut-être pas, mais...
Tout dépend de la profondeur, en fait.
Voilà, et puis effectivement, certains pourraient monter en place, mettre en place des missions de récupération. Bon, c'est plus hypothétique, mais pourquoi pas, on va dire. Donc voilà, ça c'était, c'est ce côté, sonde très résistante.
Pour ce, je sais pas si on peut le simuler, mais si elle était tombée, je sais pas moi, au cœur d'une ville, alors ça fait quoi ?
Ah ben là je pense...
Une demi-tonne
Oui, alors sur la demi-tonne qui restait, je pense qu'effectivement il y aurait pu y avoir quand même beaucoup de...
Si ça tombe sur un immeuble, bon, j'imagine que ça fait un trou, ça va pas s'arrêter au toit, hein. Mais ça va faire un cratère, non ?
Oui, alors après, là-dessus je me suis renseigné un petit peu, alors il faut démêler un petit peu le vrai du faux et de... de ce qui peut relever de la science-fiction ou pas.
Oui.
Mais si par exemple on avait à coup sûr, on sait qu'elle tombe sur une ville ou sur une zone vraiment très importante, on pourrait très bien la détruire avec un missile, que ce soit un avion de chasse ou autre, de façon à créer des fragments beaucoup plus nombreux.
Ah, donc ça c'était quelque chose d'envisagé.
Alors en tout cas, si le cas devait se produire, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé.
Parce qu'apparemment, jusqu'au dernier moment, on ne savait pas trop finalement où elle allait tomber. Donc le temps de réaction, il est quand même très court.
Oui, alors il est court, mais par contre, on sait très bien où était ce satellite. On connaissait, alors même si sa trajectoire était au départ extrêmement, on va dire...
C'était flou, oui.
Extrêmement flou, mais au fur et à mesure que l'engin rentre dans l'atmosphère, on sait où
on
il
affine,
est, on affine sa trajectoire jusqu'au dernier moment.
Et on a le temps, du coup.
Donc, à un moment donné, si on sait qu'il y a quand même un risque que ça tombe sur une ville...
Oui.
Bah, dans ce cas-là, avant même de savoir que ça tombe sur la ville même ou à côté, on peut prendre la décision de...
De
mettre en place quelque chose. Ouais. Bon, alors là encore, faut faire attention. On est quand même pas loin de la science-fiction aussi. Voilà, donc là-dessus, j'ai vu passer certaines choses là-dessus, justement qu'on pouvait envoyer un missile, le détruire, etc. Oui, mais il faut vraiment qu'il y ait une utilité...
dernier recours.
Voilà, que ce soit vraiment critique, parce que sinon, ça ne sera pas fait, quoi.
Ok, très bien.
Voilà, et donc, du coup, sur Vénus, donc, du coup, tu...
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Vénus ? Alors, déjà, Vénus est une planète tellurique, ça, je ne vous apprends sûrement pas grand-chose, donc composée essentiellement de roches. Alors, elle est plus près du Soleil que nous, hein, puisque dans l'ordre des planètes, on a Mercure en premier, qui orbite vraiment très près du Soleil, hein, à environ 50 millions de kilomètres, 58 millions. Vénus, ben, en gros, c'est un peu plus de 100 millions de kilomètres, et la Terre, 150 millions. Donc, effectivement, elle est plus près, donc son orbite est plus petite que celle de la Terre. Alors, les chiffres, ça, j'ai toujours un peu de mal, mais une révolution de Vénus, c'est 224 jours terrestres. Sa rotation, donc, on est à 243 jours. Hein. Elle tourne donc plus lentement sur elle-même qu'elle ne fait un tour autour du Soleil. Température de surface, je l'ai dit, 470 degrés. C'est très chaud. Alors, ça, c'est ça qui est intéressant sur Vénus. Je pense que c'est ce qui intéresse l'émission, hein, d'aller voir là-bas. C'est qu'on se demande pourquoi l'atmosphère est aussi dense. Alors, elle est composée essentiellement à plus de 90% de CO2, de dioxyde de carbone.
Oui, le fameux dont on veut pas, d'ailleurs.
C'est le fameux... Donc, on peut considérer que sur Vénus, il y a un effet de serre qui est gigantesque. Alors, est-ce qu'il a toujours été comme ça ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est mis en place, qui s'est emballé? En me renseignant, j'ai vu que... Certains émettent l'hypothèse qu'il y a 3 milliards d'années, Vénus aurait pu être un peu comme la Terre. Donc, on ne sait pas trop, d'où l'intérêt d'aller voir ce qui se passe sur place. Donc, l'effet de serre, je rappelle hein, ce que c'est. Ben, c'est simplement, parce qu'on parle toujours de l'effet de serre comme quelque chose de négatif, mais il est indispensable, par exemple, l'effet de serre à la vie sur Terre. Il n'y aurait pas d'effet de serre, il ne ferait pas chaud hein, sur Terre.
Ah, ben, clairement.
Voilà. Mais voilà, il faut que ça soit bien dosé sur Terre. Jusqu'à maintenant, c'est pas mal. Alors, l'effet de serre, c'est une partie du rayonnement du Soleil qui rebondit sur la surface du Soleil, repart vers l'extérieur, ben, avec l'atmosphère, tout ne repart pas. Il y a une partie qui reste emprisonnée et c'est ce qui permet de réguler un peu la température et d'avoir quelque chose de cohérent sur toute une planète, à quelque chose près. C'est ce qui se passe donc sur Terre, comme il faut, dans des bonnes proportions. Sur Vénus, bah, le problème, c'est que cet effet de serre-là, il est juste phénoménal.
Oui, puis en fait, on pense qu'il y a en fait un phénomène d'emballement thermique, hein, tout
mais
simplement.
C'est ça. Voilà. Donc, c'est ce qui est intéressant de comprendre pour voir éventuellement si c'est ce qui nous attend sur Terre dans un futur. Alors, normalement, qui devrait être éloigné, mais avec l'activité humaine, évidemment, on a l'impression que cet effet de serre est... amplifié et pas naturellement.
Oui, alors après, bon, il y a quand même plusieurs choses qui rentrent en compte. Oui, alors déjà, comme tu le disais, hein, la quantité de CO2 dans l'atmosphère de Vénus...
C'est 97, hein, je crois.
Voilà, c'est 97%. 97%. Ouais. Sur Terre, on en est très loin. Le CO2, c'est 500 parties par million. Hein, donc, c'est quand même extrêmement faible.
En pourcentage, donc, ça ferait quoi, ça?
Si je me souviens bien, ça fait 0,05.
Oui, voilà. Donc,
on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Hein.
Pour comprendre, oui.
Voilà, donc... mais il y a aussi le fait hein, que la pression sur Vénus est 100 fois supérieure à celle qu'on connaît sur Terre. Donc, ça aussi, ça joue énormément.
Il y a plein de paramètres, tout à fait. Ouais.
Et comme tu disais, oui, sur Vénus, on sait que, par exemple, notamment grâce aux sondes Venera, hein, dont il y a eu énormément de survols hein, de Vénus, donc il était simplement... Là, il n'y avait pas de notion de se poser hein, sur la planète. Il y a eu de nombreuses images radars. On a étudié son atmosphère, sa composition, sa température, etc. Et c'est là aussi, et notamment grâce aussi aux sondes américaines Magellan, eh bien, qu'on sait qu'il y a eu du liquide à la surface de Vénus. On sait qu'il y a une activité volcanique, d'ailleurs, qui est probablement encore présente.
Ah oui, alors, ouais, parce que j'avais, pareil, dans mes quelques recherches, hein, j'avais lu qu'il y avait un débat, notamment sur ça, le volcanisme, et aussi la tectonique des plaques.
Oui, oui.
Sur Vénus, apparemment, il n'y en aurait pas. Puis, il y en a qui disent peut-être qu'il y en aurait, et du coup, on ne sait pas trop.
Oui, pour l'instant, on ne sait pas trop. Et c'est justement en analysant les données, et c'est là où c'est intéressant, hein, la science, c'est que sur les données initiales des sondes Magellan, etc., on n'avait pas trop cherché ce genre de paramètres. Et c'est des décennies plus tard, en s'apercevant qu'il y a une possible activité volcanique et de tectonique des plaques, que notamment on envisage de nouveau des missions d'exploration sur Vénus, alors que l'exploration de Vénus a été délaissée pendant des décennies, hein, puisque en gros il y a eu que les sondes Venera qui ont vraiment tenté d'aller jusque sur le sol. Hein. Après il y a eu les sondes Magellan, etc. pour explorer un petit peu plus. Mais en tout cas s'il y a eu des traces de liquide. Vu la composition de l'atmosphère, c'est probablement de l'acide sulfurique. Alors,
ouais, pour le thé, c'est pas ce qu'il y a de mieux.
Ouais, c'est pas terrible quand même. Hein. Bon. Voilà, tu parlais tout à l'heure des trajectoires de rentrée. On parlait des trajectoires de rentrée, notamment de l'imprécision. Hein. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose. Souvent, je lisais aussi des articles là-dessus. Certains se demandaient comment ça se fait qu'on ne puisse pas prédire la trajectoire précisément. Oui. Alors, la trajectoire de rentrée atmosphérique d'un corps, on la connaît très précisément.
Oui.
C'est-à-dire que si vous avez un orbite, un satellite en orbite et qu'on contrôle sa rentrée atmosphérique, on sait le faire et on a une précision qui est de l'ordre de quelques centaines de mètres hein, sur le point d'impact au sol. Bah, ça, c'est fait traditionnellement. Hein, toutes les rentrées atmosphériques, des capsules Dragon actuellement ou des capsules Soyuz quand elles rentrent dans l'atmosphère, on connaît précisément le point où elles vont arriver. En général, les satellites, quand on va les désorbiter, on va s'arranger pour qu'ils tombent à proximité du point Nemo.
Mais ça veut dire qu'elles sont contrôlables parce qu'elles ont des moteurs qui
oui.
sont encore
oui.
sont encore opérationnels.
Voilà.
Ce qui n'était pas le cas avec.
Voilà, ouais. C'est tout le problème de l'autre cas, c'est quand en fait la rentrée n'est pas contrôlée.
Voilà.
Et bien dans ce cas-là, déjà premièrement. Et c'est le cas par exemple du satellite Cosmos. C'est que c'est extrêmement difficile dans un premier temps de connaître la densité réelle de l'atmosphère que va rencontrer le satellite. Mmh. Alors ça déjà, bon, même si après avec les observations on va avoir des modèles bien précis, on va dire que c'est le paramètre, on va dire à la rigueur le plus connu. Mais le deuxième paramètre qui va surtout pas être connu, c'est sa traînée réelle. Déjà, quand il va rentrer dans l'atmosphère et qu'il va commencer à rencontrer les premières couches denses de l'atmosphère, c'est est-ce qu'il va se mettre en rotation ou pas ?
Oui.
Parce que s'il se met en rotation, eh bien la traînée va être évidemment beaucoup plus importante, il va freiner de manière plus importante, etc. Deuxièmement, pour estimer sa traînée, il faut connaître l'état réel du satellite. Or, comme on l'a dit, le satellite, hein, ça met, l'échec, il est lié à l'explosion du lanceur. Est-ce que le satellite avait déjà perdu des pièces, dans quel état il était, quelle était sa traînée résiduelle réelle ?
Donc ça, déjà, on a une incertitude, ne serait-ce que sur sa masse, en fait. Ou peut-être pas, quand même, ouais.
Alors, oui, alors si, mais on va dire pas dans des proportions énormes. Ça va pas être dans un rapport 1 sur 2 ou 1 sur 3.
Oui, il va perdre des trucs qui dépassent, mais pas plus que ça, quoi.
Voilà, mais ouais. Par exemple, est-ce que ses panneaux solaires étaient entiers ?
Oui.
Est-ce qu'il en a perdu ? Enfin, voilà, ce genre
de... C'est ce genre de choses qui peut le faire mettre en rotation, notamment.
Oui.
S'il avait plus qu'un côté avec un panneau, du coup, automatiquement, dès qu'il va commencer à frotter, il va se mettre à tourner, quoi.
Voilà. Mm. Et une fois qu'il rentre dans l'atmosphère... Mmh. Eh bien, la deuxième chose, c'est il va forcément perdre des éléments, mais quand, dans quelle proportion, etc. Donc là, il y a tout un tas de facteurs qui sont complètement aléatoires, et c'est ce qui va rendre la chose aléatoire. Et la deuxième chose, alors même si on sait le prévoir, eh bien, c'est les rebonds sur l'atmosphère aussi.
Oui.
Puisqu'en fonction de... je prends typiquement, c'est le cas des ricochets, hein, d'un caillou sur l'eau.
Mm-hmm.
Selon comment vous allez le lancer, à quelle vitesse, avec quel angle, etc., eh bien, il va ricocher ou pas sur la surface de l'eau. Eh bien, là, c'est exactement pareil avec les rentrées atmosphériques. Alors, des fois... on a envie que l'engin rebondisse sur l'atmosphère. C'est le cas, par exemple, des capsules Apollo,
oui.
qui ont toutes rebondi sur l'atmosphère pour justement éviter des efforts de rentrée trop importants.
Ah oui, ça ralentit, du coup. Oui.
Ça va déjà ralentir une première fois. Et donc, du coup, la deuxième fois, quand vous allez rentrer dans l'atmosphère, eh bien, vous avez déjà perdu beaucoup d'énergie. Et du coup, c'est des décélérations aussi beaucoup moins fortes sur la dernière rentrée atmosphérique. Donc, ça peut être voulu aussi. Donc toutes ces incertitudes hein, font que effectivement c'est difficile de prévoir. Mais par contre au fur et à mesure du temps, eh bien on va pouvoir affiner de manière de plus en plus précise. Alors initialement sur les premières estimations, c'est vrai que c'était quand même très vague hein, puisque en gros ça pouvait tomber de l'Europe de l'Ouest jusqu'à l'océan Indien.
Oui.
Jusqu'à l'Inde, hein, en gros.
Et ça a été au-delà, du coup.
Ça a été légèrement au-delà. Alors, on était quand même dans la zone initiale de retombée.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est ce qui est assez intéressant à retenir. C'est que finalement, même si la zone initiale était très large, vous allez me dire, au départ, on a simplement dit « il va retomber sur Terre ».
C'est déjà pas mal.
Ça, voilà, mais bon, faut pas oublier quand même que sur Terre, il y a 70% d'eau. Hein.
Oui,
voilà.
Oui.
Bon, vous me. Il aurait pu retomber dans le lac du Salagou aussi, c'est vrai, ça serait retombé dans l'eau aussi.
Ça aurait dérangé les silures, mais bon.
Voilà, mais effectivement, au fur et à mesure, bah, ça s'affine, en fait. Donc après, et on a rapidement quand même compris que...
Il n'y avait pas trop de danger.
Ouais, ouais. Le danger était quand même plutôt...
Minime.
Ouais, minime.
Minime.
Voilà. Donc, oui, alors un autre point aussi, et ça c'est assez intéressant, parce que je me suis posé la question quand même de savoir combien il y a de satellites comme ça qui peuvent nous retomber sur la tête en bon gaulois, hein, on a peur que le...
que le ciel, ouais, bah alors, du coup c'est justifié. Oui, puis surtout sur quelle période, ça serait intéressant de savoir.
Voilà, alors déjà, ce qui est assez intéressant à savoir, c'est que en 2022... on estime qu'il y a 5000 satellites inactifs qui sont en orbite basse, donc inactifs ou hors de contrôle, hein, c'est-à-dire dont on n'a pas le contrôle. Donc 5000 sur l'orbite basse, donc c'est-à-dire inférieur à 2000 km d'altitude. Mmh. Et faut savoir qu'en 2024, on a passé la barre des 10 000 satellites en orbite.
En orbite basse, hein, toujours.
Oui, en orbite tout court.
Ah, ok.
En orbite tout court. Alors, il faut savoir que l'orbite basse est quand même, on va dire, l'orbite la plus
utilisée.
Hein. C'est là où on va retrouver bah, tous les satellites d'observation terrestre, etc.
Ah, pour rappel, l'ISS hein, est à 400 km hein, d'altitude.
Voilà, donc elle fait partie de l'orbite basse, hein, puisque l'orbite basse, hein, c'est 2000 km d'altitude.
Maximum, oui.
Voilà. Là-dedans, on va trouver aussi, eh bien, tout simplement, les satellites de géopositionnement, hein, que ce soit les GPS, les satellites Galileo, GLONASS, Beidou pour les Chinois. On va retrouver tout un tas de satellites d'observation de la Terre. Et il y a vraiment, on va dire, l'orbite géostationnaire.
C'est 36 000. Hein.
Voilà, 36 000 km d'altitude, où là, le satellite va rester à un point au-dessus de la Terre.
Ça serait bien d'expliquer, oui, ça, parce qu'un géostationnaire, c'est pas qu'il est immobile. Hein.
Ah non, pas du tout. C'est-à-dire que la vitesse à laquelle il orbite autour de l'équateur,
oui.
Et donc les satellites géostationnaires sont systématiquement au-dessus de l'équateur. Hein.
Oui.
Là, ils ne peuvent pas être ailleurs. Et donc, ils sont au-dessus de l'équateur. Et la vitesse à laquelle ils vont tourner pour rester en orbite, il se trouve qu'à cette vitesse-là, ils vont se retrouver toujours au-dessus du même point de la Terre.
Ils sont synchronisés, en fait. Voilà.
Voilà,
c'est pour ça que les 36 000 km/h, ce n'est pas par hasard. C'est l'altitude à laquelle il faut qu'il soit pour se synchroniser avec la rotation de la Terre.
Voilà, c'est-à-dire que la vitesse d'orbite à cette altitude-là,
correspond.
Qui compense la force de gravité à laquelle ils sont soumises, fait que leur vitesse vue du sol est fixe, en fait. Ils restent au-dessus du même point terrestre. Et donc là, on estime que c'est environ 500 satellites en géostationnaire. Donc c'est pas tant que ça finalement.
Non. Hein, et ils servent à quoi du coup? En général, on retrouve quoi?
Alors, on va retrouver
les émissions TV, hein, notamment, puisque les paraboles, elles bougent pas. Il faut qu'elles soient toujours dirigées vers.
Essentiellement des satellites de radiocommunication. Donc ça peut être bien tout simplement, comme tu dis, les satellites de télé, hein, pour capter la
transmission
télé. Télé, radio d'ailleurs, hein, aussi. On va retrouver des satellites d'observation météo.
Oui.
Les météosats sont géostationnaires. Alors, tous les satellites météo ne sont pas géostationnaires. Hein, attention, hein, c'est pas ce que je dis. Mais on va en retrouver quelques-uns quand même là-dedans. Et puis, il y a quand même aussi des satellites d'observation militaire, par exemple, pour surveiller un territoire à l'échelle nationale. Par exemple, l'armée française a peut-être... Je ne sais pas, c'est sans doute le cas, mais voilà, ils ont peut-être des satellites d'observation géostationnaire de façon à ce qu'en permanence, ils puissent surveiller ce qui se passe sur le sol français, tout simplement. Voilà.
Sans être obligé de faire une orbite et attendre à chaque fois de repasser.
Même si il y en a qui sont en orbite polaire basse et qui font très bien leur travail aussi, hein, donc ça existe aussi. Mais voilà, il y a vraiment ce côté-là. Par contre, il y a un point qui m'a Un petit peu, en faisant mes recherches, il y a un point... oui, j'ai oublié de dire. Effectivement, on a dit les 5000 satellites. Bon, effectivement, ceux-là peuvent retomber. Il ne faut pas oublier non plus tous les restes de lanceurs. Quand on lance une fusée, il peut y avoir des morceaux qui restent en orbite, qui vont y rester plus ou moins longtemps. On estime que c'est environ 2500 restes de lanceurs qui sont en orbite autour de la Terre, hein, en orbite basse, hein, pour le coup.
Oui, oui.
Et qui vont retomber tôt ou tard. Alors, ceux-là, on en est à peu près sûr. Sauf qu'on ne sait pas quand.
Après, on est sur des objets qui sont beaucoup plus petits que le cas de Cosmos, là.
Oui, mais alors, dans le cas, par exemple, des restes de lanceurs, il y a quand même des choses qui peuvent être relativement grosses, hein, notamment des restes de derniers étages de lanceurs, donc avec les moteurs, etc.
Oui,
Donc là, on reste quand même sur des... Mais ce n'est pas des satellites en tant que tels. C'est-à-dire que ce n'est pas un satellite dont on a volontairement voulu mettre en orbite autour de la Terre. C'est un petit peu la différence. Et puis, évidemment, après, il y a tous les débris spatiaux. Ça va jusqu'à inférieur à 1 mm de diamètre. On estime que c'est 150 millions. Hein,
C'est quand même important de le souligner parce qu'un débris tout petit qui orbite à cette altitude-là, il va très très vite.
Oui.
Donc du coup, même un truc de quelques millimètres, si ça rencontre par exemple l'ISS, ça peut faire un trou.
Ça la transperce, oui.
Et voilà.
Complètement. D'ailleurs, parmi les débris spatiaux qui vont retomber sur Terre, c'est la majorité des étoiles filantes qu'on voit en dehors des essaims.
Ah oui, oui.
C'est la majorité. Et dernier point, je me suis demandé pourquoi il en retombait aussi souvent là, ces dernières années, notamment ces derniers mois. Il y a eu beaucoup de cas de retombées comme ça de satellites et je me suis posé la question. Et c'est assez intéressant parce que c'est lié au Soleil.
Ah, alors il faut que tu nous expliques là.
Ouais, c'est assez intéressant. Donc la thermosphère hein, qui est dans laquelle orbite l'ISS, hein, qui est la zone de l'atmosphère entre 80 et 500 km d'altitude, eh bien, ces 500 km d'altitude dépendent de l'activité solaire. Et cette thermosphère, alors normalement la température augmente avec l'altitude, mais en moyenne elle se situe à environ 500 degrés, c'est la température moyenne. Et lors de très gros orages géomagnétiques, donc quand il y a des bouffées de chaleur du soleil qui rencontrent la Terre, ça a été le cas en mai 2024 l'année dernière, hein,
oui.
Où il y avait eu ces aurores magnifiques, mais il y en a eu plein hein, pendant l'été, pendant l'automne, visibles ou pas en France, mais il y en a quand même eu pas mal. Eh bien, la température dans la thermosphère peut monter jusqu'à 1000 degrés, voire 1500. Et sous l'effet de cette température énorme, la thermosphère va se dilater.
Oui.
Et du coup, des satellites qui seraient en orbite elliptique, comme Cosmos, hein, dont le périgée, c'est-à-dire le point le plus proche de la Terre, était à 200 km, et jusqu'à 2500 au plus loin, va se retrouver finalement dans une couche assez dense de l'atmosphère pour lui, et ce qui va le ralentir drastiquement. Et c'est pour ça que pendant cette période, il y a eu énormément de satellites qui ont dû faire des corrections orbitales plus que d'habitude, dont certains se sont retrouvés en difficulté. Certaines agences se sont demandé d'ailleurs si certains satellites, il ne valait pas mieux finalement les faire retomber sur Terre ou pas. Donc voilà, et ça, c'est assez intéressant de...
Alors est-ce qu'on pourrait, sachant que ces activités du Soleil, on sait à peu près que c'est tous les 11 ans, est-ce qu'on pourrait justement dire que tous les 11 ans, en gros, y en a plus de chances d'avoir des satellites qui retombent sur Terre qu'à d'autres périodes de...
Eh bien, en fait, oui. Sur ces périodes de très forte activité, c'est là où on a le plus de rentrées atmosphériques.
Ok, on est en plein dedans, du coup.
Voilà. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question, finalement. Donc, cette émission touche à sa fin. Merci d'avoir écouté l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Et on se retrouvera le lundi 16 juin. Patrick, je te laisse le mot de la fin.
Écoutez, comme on n'a pas eu le temps encore, on est trop bavard de faire les éphémérides, vous pouvez les retrouver tout simplement sur la parenthèse étoilée.
Voilà. Merci de faire un peu de pub.
Voilà, et merci à tous et à toutes, et à la prochaine fois.